Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
la radio sauvage.
0.
Quelle heure est-il ?
Et 6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures.
Avant minuit.
Yes, man.
C'est 7h minuit, alors je suis pas bon.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab.
La radio sauvage.
Bonsoir, il est 6h avant minuit. Merci d'écouter l'émission d'actualité locale de Syllab. Pour info, nous vous proposons un nouveau jeu concours. Syllab vous offre des places pour deux événements du festival de danse Waterproof qui est de retour dès le 17 janvier et jusqu'au 1er février. En jeu, deux places pour Rupture de Mercedes Dassy. Ça se passe le mercredi 29 janvier à 20h30 au Théâtre de l'Air Libre de Saint-Jacques-de-la-Lande. Vous pourrez y suivre les aventures de Mercedes Dassy et de ses comparses qui vont se parer de prothèses très suggestives pour devenir des femmes cyborgs. Et c'est suivi d'un live de Mercedes Dassy. À gagner également deux places pour la soirée Let's Dance Waterproof qu'on ne présente plus avec la Reine des Voyous au platine. Ça se passe le 1er février à 23h à l'Ubu. Pour jouer et gagner, vous aurez besoin d'un petit mot de passe. Le mot de passe, c'est Triangle. Petit indice, c'est le nom de cité de la cité de la danse de Rennes, organisatrice entre autres, parce qu'ils sont beaucoup, du festival. Et puis, il faut que j'ajoute aussi que nous serons en direct du Théâtre de l'Air Libre ce vendredi. Ça se passe de 18h à 19h pour une 6h avant minuit spéciale Waterproof. Je laisse le micro à Cyriane pour le Flash Info.
Bientôt une trêve à Gaza. Ce lundi, le Qatar a remis à Israël et au Hamas une version terminée d'un accord de trêve à la suite d'une, je cite, « percée dans la discussion à ce sujet cette nuit », d'après une source proche des négociations. Selon elle, je cite, « les 24 prochaines heures vont être déterminantes pour la conclusion de l'accord ». Les deux parties n'ont quant à elles rien confirmé officiellement à ce sujet, mais des responsables sous couvert d'anonymat soulignent les progrès. Les fossés se sont réduits et il y a une forte pression en faveur d'un accord, si tout se passe bien jusqu'à la fin, a déclaré un secret responsable palestinien. Aujourd'hui, le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas pour la bande de Gaza a annoncé qu'au moins 19 personnes avaient été tuées au cours de ces dernières 24 heures dans le territoire palestinien. Cela porte le bilan total à 46 584 morts. L'alerte rouge a été levée ce lundi à Mayotte, après le passage de la tempête tropicale Dikledi. Moins d'un mois après la catastrophe du cyclone Chido, les dégâts les plus ravageurs ont pu être observés dans le sud de Mayotte, où 4 villages ont été totalement inondés selon les pompiers à la suite d'importantes pluies. Aucun mort mahorais n'est à déplorer pour le moment, tandis qu'à Madagascar, 3 personnes ont perdu la vie. Le cyclone se dirige à présent vers le Mozambique. Au même moment, l'Assemblée nationale entame aujourd'hui l'examen en commission du projet de loi d'urgence qui vise à mettre en place rapidement des mesures pour la reconstruction de Mayotte. Un texte autorisant notamment l'État à déroger pendant 2 ans aux règles d'urbanisme, facilite l'expropriation, mais contenant aussi des mesures sociales. 9. C'est le nombre de nouvelles accusations de violences sexuelles visant l'abbé Pierre, selon un nouveau rapport révélé aujourd'hui par l'émission d'investigation Envoyé spécial. Déjà concerné par 24 autres allégations de la même nature publiées en juillet et en septembre dernier, les témoignages relatent cette fois-ci de faits d'agression sexuelle ou de viol ayant eu lieu entre les années 1960 et les années 2000. Ces histoires ont été recueillies par EGAE, cabinet indépendant mandaté par Emmaüs pour enquêter sur les agissements de l'homme d'église. De témoignage en témoignage, le nombre de victimes s'étend, la nature des faits s'étend, les lieux s'étendent, le profil des personnes victimes s'étend, déroule Caroline De Haas, militante féministe et cofondatrice du groupe EGAE auprès d'Envoyé Spécial. Elle déplore un degré de violence qui dépasse l'entendable. Une enquête est ouverte contre le ministre des Transports, Philippe Tabarot. Lui est reproché le détournement de fonds publics et une prise illégale d'intérêts. Deux infractions que le ministre aurait commises lors de postes occupés au sein du groupement d'intérêt public, touristique et culturel du Canet entre 2018 et 2020, avant de travailler par la suite pour un emploi à la communication de la même ville. Une ville dirigée entre 1995 et 2017 par sa sœur, la députée Les Républicains Michèle Tabarot. une information confirmée par une source judiciaire pour le journal Le Monde. L'enquête préliminaire est toujours en cours et avait été ouverte en juillet 2021 après un signalement de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique. Le 28 décembre dernier, le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a dévoilé une partie de son plan pour lutter contre le narcotrafic et la criminalité organisée. Une mesure consistant à regrouper les 100 plus gros narcotrafiquants de France dans des établissements pénitentiaires spécialisés d'ici l'été 2025. Invité sur LCI, hier dans la soirée, le ministre est revenu sur cette mesure et Eva nous explique en quoi elle consiste.
Nous allons prendre une prison française. On va la vider des personnes qui y sont et on y mettra, puisqu'on l'aura totalement isolée, totalement sécurisée, avec des agents pénitentiaires particulièrement formés, anonymisés, les 100 plus gros narcotrafiquants. Voilà concrètement l'idée sur laquelle se base le garde des Sceaux Gérard Darmanin. Et tout ça avec un objectif clair, isoler les détenus pour empêcher toute communication avec l'extérieur. Enfin, plus précisément, pour que les narcotrafiquants ne puissent plus continuer leur trafic depuis leur cellule. Selon France Info, le ministre avait d'abord envisagé un isolement renforcé de ces narcotrafiquants dans leurs prisons respectives, en les fouillant et en brouillant particulièrement leurs communications. Mais hier, Gérard Darmanin a insisté sur
Gérald.
Gérard ?
Gérald.
Mais non.
Je me suis permis parce que ça fait deux fois que tu l'as fait et je trouve ça hyper drôle, mais vas-y. Allez Gérard.
Désolé Gérard. Mais hier, Gérald Darmanin a insisté sur l'importance de citer de montrer que quand on est en prison et qu'on est un narcotrafiquant, on ne peut pas téléphoner et on ne peut pas avoir une vie agréable. Ces propos sont salués par Emmanuel Baudin, le secrétaire général Force Ouvrière Justice, qui déclare aujourd'hui à France Info que, comme pour le terrorisme, on a toujours dit qu'il fallait des établissements spécifiques et non pas des quartiers spécifiques au sein d'un établissement. Il poursuit sa comparaison avec le terrorisme en appuyant que, sur je cite, « l'erreur d'éparpiller ces détenus qui, même à l'isolement, arrivent à radicaliser d'autres détenus par la fenêtre le soir en parlant ». D'un autre côté, chez les syndicalistes, les réactions sont plus nuancées face à cette annonce du ministre de la Justice. À l'opposé de l'idée que des établissements pénitentiaires spécialisés seraient plus sécuritaires, Eric Fiévet de la CFDT pénitentiaire estime que mettre tous les détenus dangereux au même endroit va poser un problème sécuritaire. Pourquoi ? Voilà une explication donnée par Frédéric Ploquin, spécialiste du grand banditisme à RMC ce matin. Je cite « À partir du moment où vous les mettez dans la même prison, soit il va y avoir un bain de sang dans la prison, soit ils profitent de cette promiscuité pour former le plus grand cartel de demain. Une hypothèse qui fout les chocottes, mais une hypothèse tout de même face à d'autres problèmes concrets qui viennent contrecarrer le plan du garde des Sceaux. Un problème important, par exemple, est qu'il est nécessaire, je cite, de faire de la place parce que les quartiers d'isolement sont pleins comme les prisons, précise Emmanuel Chambaud, le secrétaire général du syndicat UFAB-UNSA. Gérald Darmanin a tout de même évoqué hier soir à LCI avoir deux prisons en tête sans préciser quels établissements. Mais pour mettre en place son plan, il est nécessaire que les prisons concernées possèdent un système de brouillage performant. Deux établissements pénitentiaires ressortent du lot selon une source syndicale à France Info. Le centre pénitentiaire de Vendin-le-Veil dans le Pas-de-Calais et le centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe dans l'Orne répondent aux critères de prison de haute sécurité recherchés.
Et une nouvelle annonce du gouvernement en lien avec le narcotrafic, alors que ce samedi sur la dalle Kennedy, deux hommes ont été touchés par balle vers 20h. L'un à la main et au thorax et l'autre plus légèrement à la jambe. D'après les premiers éléments de l'enquête, deux personnes cagoulées ont ouvert le feu avant de s'enfuir dans une voiture signalée volée. 20 douilles ont été retrouvées sur les lieux du crime, des tirs qui seraient en lien donc avec le narcotrafic. Nathalie Appéré, la mairesse de Rennes, s'est rendue hier sur la dalle Kennedy et s'est également entretenue avec le préfet et le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Elle a déclaré que d'importants renforts de police sont actuellement déployés dans le quartier et avoir des garanties pour les prochains jours. Selon elle, la priorité des priorités est de renforcer la présence des forces de sécurité intérieure sur le terrain pour stopper l'action de ces criminels et protéger la population. En début de semaine, Jean-Luc Chenu, président du département d'Ille-et-Vilaine, présentait quant à lui ses vœux pour la nouvelle année. L'occasion de faire un état des lieux des perspectives à venir pour 2025 dans un contexte économique très compliqué.
Vous le savez, il n'y a toujours pas de loi de finances. La loi de finances, elle est déterminante maintenant pour les collectivités parce qu'un département n'a plus aucune ressource fiscale propre. Donc il est totalement tributaire des décisions que prend l'État en matière de dotation, en matière de gel ou pas gel de TVA. Le projet initial prévoyait par exemple un prélèvement de 2% sur les ressources des collectivités dont le budget dépasse 40 millions. Bien pour nous, c'est 22 millions d'euros en suspens. Mais prélever les ressources sur des collectivités qui sont déjà sur la ligne rouge de l'équilibre budgétaire, ça semble inconcevable et ça revient finalement à raisonner comme si on confondait le chiffre d'affaires d'une entreprise avec son résultat. C'est aussi pour ça que j'ai pris le soin de réunir un très grand nombre de partenaires. Il y avait plus de 300 établissements médico-sociaux, plus de 150 communes. En tout, 820 personnes sont venues à passer mi-décembre pour une réunion générale d'information, dire la réalité, notre situation et les économies que l'on va devoir faire qui vont être très impactantes dans un certain nombre de secteurs parce qu'il y a des compétences qu'on exerce de façon strictement obligatoire avec des barèmes qui sont définis par l'État non négociables et d'autres où on a une latitude. Et malheureusement, c'est sur ces politiques que nous avons la seule capacité pour maintenir l'équilibre, mais nous le faisons vraiment à regret, c'est contre nos convictions. Je ne suis pas de ceux qui disent que c'est le moment de supprimer tous les crédits à la culture, tous les crédits au sport, c'est facultatif. Non, on est convaincu que c'est important. Par contre, il y aura des réductions importantes cette année, avec l'espoir, bien sûr, que dès que la situation, je l'espère un jour, revienne meilleure, eh bien, on rétablira quand même, parce qu'il y aura des impacts sur des emplois dans des associations. Nous allons devoir réduire aussi assez fortement notre programme d'investissement cette année, donc avec là aussi des impacts sur le bâtiment, les travaux publics, parce que ce n'est pas des chantiers qu'on abandonne, mais c'est des chantiers qu'on va décaler des fois de 6 mois, de 9 mois, parce qu'on ne peut pas se surendetter, on ne peut pas faire ce qu'a fait l'État et on ne peut pas financer nos dépenses de fonctionnement par des emprunts.
Merci le H pour ton reportage.
À ton service.
Vous avez du temps libre et vous voulez être utile à notre belle planète? Eh bien,
c'est la fin de ce flash.
Eh bien, rendez service à sa biodiversité, en particulier celle de Montgermont. Ce mercredi est organisé dans la commune un comptage des oiseaux de jardin dans certains de ses espaces verts. Alors, si vous êtes patient et patiente et que vous voulez vous aérer l'esprit au rythme des cucuits, rendez-vous ce mercredi à 14h à l'espace détente de Montgermont. L'inscription à l'activité est bien évidemment gratuite et se fait par téléphone au 06 52 11 35 47.
Merci Cyriane pour ce flash. Il est enfin arrivé, nous devions le recevoir la semaine dernière sur le plateau. Oups ! Mais heureusement, il est là, nous parlons du festival Autre Mesure ce soir avec son programmateur.
Quelle heure est-il ?
6h.
Minuit, pourquoi ?
Syllabe.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
Et à minuit, plus personne.
6h avant minuit.
Lunettes rectangles marron, cheveux couleur taupe, pull gris. Tout dans la sobriété, c'est Jean-Sébastien Nicolet, programmateur Festival Autre Mesure, qui est en face de moi. Bonsoir.
Bonsoir, merci de m'accueillir.
Pas de problème, merci d'être venu avec nous. Alors tout d'abord, on va poser la question, la grande question, qu'est-ce que le Festival Autre Mesure ?
Alors le Festival Autre Mesure, c'est un événement dédié à la musique contemporaine qui se déroule depuis 10 ans maintenant sur la ville de Rennes, originellement dans des lieux muséaux, donc on propose de la musique dans des espaces qui ne sont pas forcément dédiés à la musique au départ. Et sur une quinzaine de dates, en général de mi-janvier à début février, on propose différentes palettes de couleurs musicales.
Quand vous dites des lieux qui n'accueillent pas généralement de la musique, est-ce qu'il y a une raison pourquoi vous avez choisi ce type de lieu ?
Ouais, c'est vraiment dans l'ADN du festival que d'essayer de casser un peu la barrière de cette musique qu'on dit un petit peu difficile, qui n'est pas tout forcément comprise, qui peut faire un peu peur. Et le travailler avec des musées, c'était aussi mettre en parallèle, on va dire, une musique avec une vision aussi un peu graphique. Donc il y a souvent des questions-réponses avec des expositions proposées par les lieux aussi. Et puis tout simplement parce que ces lieux muséaux ont parfois des acoustiques assez impressionnantes. Là, je pense notamment au Musée des Beaux-Arts qu'on a pu exploiter la semaine dernière, qui a beaucoup de réverbération. Donc ça permet un travail aussi sonore un peu particulier où les musiciens aussi ont un petit travail d'adaptation.
Je voulais d'ailleurs vous demander comment est-ce que vous définirez la musique contemporaine selon vous ?
Alors il y a plein de définitions à vrai dire. Donc la définition la plus simple, c'est de dire c'est toute la musique de création d'après-guerre. donc après 45. Après, contemporain veut dire aussi musique d'aujourd'hui, donc finalement ça a un petit peu perdu son sens également. On a tendance à penser que la musique contemporaine c'est de la musique écrite, hein, musique un peu savante, issue de culture de conservatoire, un peu issue du classique, mais en fait c'est beaucoup plus large que ça, et c'est un peu ça aussi le propos du festival, c'est de montrer les différentes facettes. On peut toucher aux musiques électroniques, on peut toucher au jazz, aux musiques improvisées, on peut aux installations sonores, en fait c'est très très large.
J'ai pu lire aussi que ce festival avait été créé par des musiciens et musiciennes passionnés il y a de ça 10 ans. Mmh. Et j'aurais besoin d'un peu plus de précision. Est-ce qu'il y a une association derrière ? Est-ce que c'est des salariés, des bénévoles ?
Oui, c'est entièrement bénévole. C'est une association qui a été montée effectivement par des musiciens et musiciennes et compositeurs, compositrices. Donc maintenant, il y a 10 ans, dont certains sont professeurs, dont certains ont des carrières dans la musique et d'autres pas du tout, juste des passionnés. Et moi, je suis arrivé il y a 5 ans, je dirais, dans l'événement, parce que j'étais aussi public de ce festival, et je me suis demandé comment moi, professionnel, pour le coup je travaille dans la musique, je pouvais un peu aider à structurer cette organisation et l'aider à grandir un petit peu, à s'installer de manière un peu plus pérenne dans le territoire rennais, et puis voilà. Donc il n'y a pas vraiment de salariés dans la structure pour répondre à la question, c'est une association, ça a but non lucratif, et l'objectif il est vraiment de présenter de la musique.
En parlant de musique, est-ce qu'on va aller sur la programmation ?
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous parler tout d'abord de comment, en tant que programmateur, vous avez choisi cette programmation ? Est-ce qu'il y a des critères ?
Alors, évidemment, c'est déjà un peu collégial, parce que je ne suis pas tout seul à programmer. Je programme avec Mélène Dalibert et puis aussi une partie du collectif de l'association. En fait, on soumet un peu nos idées, on a des échanges beaucoup sur les sujets. Je dirais qu'un des grands moments de réflexion qu'on a, c'est tous les ans, on propose un projet de création. Donc là, c'est-à-dire qu'on met des artistes dans un endroit où ils répètent, ils travaillent un projet spécifiquement pour nous, pour le festival. Cette année, c'est l'ensemble Nisnat qui clôturera le festival le 2 février à l'Antipode. Et donc, ils travaillent à l'Antipode pendant 2 jours avant sur un programme spécial. Et on fera aussi des ateliers autour du gamelan, parce que un instrument hyper intéressant dont on parlera peut-être tout à l'heure. En tout cas, ça fait l'objet d'un travail un peu plus en amont, parce qu'il faut forcément du temps, trouver des financements, et puis trouver tout ce qui est logistique, etc., autour d'une organisation comme celle-là. Après, il y a des programmations qu'on appelle d'opportunités. Là, on sait qu'il y a des tournées d'artistes qui sont prévues à tel moment, et on s'y inscrit. Et après, il y a aussi ce qu'on appelle en réception. Programmation réception, c'est que beaucoup de gens nous sollicitent, et dans ce cadre de profusion de propositions, on essaye aussi d'en choisir quelques-uns. Et après, plus globalement, on a aussi une veille artistique, Melaine et moi, à l'année, sur ce qui sort, sur les artistes qu'on peut voir, nous, dans les différentes salles de concert, les festivals qu'on pratique.
Et est-ce que vous pouvez nous parler de certains des artistes, par exemple ? J'ai vu aussi que ça peut être des musiciens, mais aussi il y a du théâtre, une projection, conférence.
C'est-à-dire qu'en fait, on est dans une période où, enfin, on sait qu'à Rennes, il y a beaucoup d'événements. Il se passe énormément de choses, il y a beaucoup de festivals, je crois qu'il n'y a pas une semaine sans qu'il y ait un événement. Et donc, quand le festival s'est un petit peu étendu à cause des périodes d'exposition qui sont parfois difficiles à tout centraliser en une semaine, on s'est retrouvé un petit peu étendu. Et donc, du coup, on s'est retrouvé avec en face de nous, par exemple, Waterproof, dont vous avez parlé tout à l'heure, le festival, et où, par exemple, un petit peu avant le festival Travelling au cinéma. Et en fait, très naturellement, c'est des gens avec lesquels on s'est rapprochés, on s'est dit faisons des choses ensemble plutôt que de les faire en face l'un de l'autre. Et donc, avec Waterproof, par exemple, ça fait la troisième année qu'on a une collaboration avec le festival et on propose toujours quelque chose dans le sein du festival. Cette année, ce sera avec Jérôme Bell, qui est un chorégraphe un peu anti-danse, qui est vraiment une approche de la musique, de la danse très particulière. Et en fait, il avait un programme qui était assez peu connu du public de la danse. En tout cas, c'est une lecture, c'est pas une improvisation, c'est presque une performance autour d'un texte qui s'appelle Rien de John Cage. John Cage, qui est un compositeur de musique contemporaine très connu pour les gens qui suivent un peu le sujet, en tout cas en domaine de la musique écrite. Et cette conférence, elle joue beaucoup sur la musicalité des mots, sur l'absurde. C'est de la poésie sonore quelque part. Et donc c'est aussi amusant que ce soit quelqu'un qui soit issu de la danse, qui s'y intéresse et qui le présente. Donc on a vraiment une conjonction entre deux univers qui se fait là.
Et petit aparté, en parlant de ce spectacle, on fait gagner 2 places pour cette conférence sur rien. Si les auditeurs et auditrices veulent participer, il y a un mot de passe. Et le mot de passe, c'est...
Il n'y a pas de mot de passe.
Pour rester dans le thème.
Ah, pas mal. On peut peut-être dire que du coup, ça a lieu pour le coup, ça un peu plus tard dans la saison. Ce sera le... Je suis en train de chercher la date, moi-même je l'ai oublié. Le 25 janvier. Ce sera la chapelle du conservatoire.
Non, allez-y.
Non, tu voulais qu'on parle de programmation. Enfin, je ne vais pas tout brosser parce qu'il y a beaucoup de dates. Cette semaine, on a une grosse semaine déjà de programmation. Donc, pour celles et ceux qui veulent venir au festival, vous êtes les bienvenus parce que 50% de programmation est offerte. Donc, c'est gratuite, libre d'accès. C'est le cas, par exemple, de mercredi, nous allons accueillir Felicia Atkinson, par exemple, au Champ Libre. Alors, ce qui est amusant, c'est que c'est un concert qui a lieu à midi. On aime bien les horaires inusités aussi. Le rendez-vous du midi au Champ Libre est un petit peu connu. Là, c'est une proposition artistique qu'on a montée avec les gens du Champ Libre. Felicia Atkinson, c'est quelqu'un qui est issu de l'art contemporain également. Elle était curatrice pendant longtemps, elle a crié pendant une année, elle a proposé beaucoup de projets là-bas. Elle a vécu à Rennes donc assez longtemps, maintenant elle vit en Normandie. Elle est plutôt sur un travail autour de la poésie sonore également, elle travaille beaucoup sur le silence. Et elle viendra sur scène avec de l'électronique, avec un Fender Rhodes et un piano, et de la voix.
Super ça, on peut aller donc avec les collègues sur la pause de midi.
Exactement, midi 30, 13h30, c'est gratuit, okay. Dans un cadre très très confortable, puisque c'est dans l'auditorium Hubert-Curien. Donc il y a 500 places, c'est libre accès et pas de problème.
Oui, vous avez parlé des tarifs, que certaines performances, certains événements vont être payants, d'autres non. Mm-hmm. Plus ou moins, j'avais vu que parfois ça peut être 5€, parfois 20€, pardon. Est-ce que c'est un choix de faire que certains événements vont être gratuits, même une bonne partie vont être gratuits? Est-ce que c'est une façon peut-être d'attirer, ou est-ce que c'est...
Alors c'est un peu une conjonction de choses, c'est-à-dire qu'à la fois les lieux d'exposition dans lesquels on travaille, on peut difficilement mettre en place une billetterie parce qu'il y a un libre accès, par exemple le musée des Beaux-Arts est en libre accès, la Criée quand on fait des concerts est en libre accès, donc il y a ça, on n'a pas la vocation à essayer de bloquer l'accès au lieu quoi. Et de l'autre côté, je dirais, il y a effectivement, nous, un travail de défrichage sur une musique qu'on ne sait pas super évidente. Et donc, si on commence à y mettre des prix trop élevés, on sait que les gens ne viendront pas. Et en plus, on aime bien, nous aussi, revisiter la manière dont on pratique les concerts. C'est aussi ça qui est intéressant dans les lieux d'exposition, c'est qu'on n'est pas obligé d'être là, assis devant un concert pendant une heure et demie, si on s'ennuie. On peut faire un quart d'heure, avoir eu ce qu'on voulait voir pendant un quart d'heure et partir. On a le droit de faire ça aussi, c'est tout à fait autorisé.
J'ai aussi vu que c'est la 10e édition, puisqu'on est en 2025. Est-ce que pour cette 10e édition, on peut s'attendre à un événement particulier, des surprises, quelque chose?
Eh ben non. Non, on n'a rien prévu de spécifiquement lié à nos 10 ans, je veux dire, plus généralement. Après, chaque événement est un peu une surprise, a son sens dans la programmation de Sog Labellité. Il y a quelques personnalités intéressantes, en tout cas, à découvrir. Enfin, là, je pense à deux projets particulièrement. Il y a les 8 sonneurs pour Philippe Glass, par exemple, Erwan Keravec. Et là, c'est proposé, par exemple, de la musique contemporaine faite à la cornemuse. Et donc ça, et sur un répertoire de Philippe Glass, qui est connu pour des musiques de films, qui est connu pour de la musique sérielle répétitive. Et pour mettre un petit peu ça en perspective, quelques jours avant, avec Guillaume Kosmiki, on fait une petite conférence sur le sujet de la musique sérielle. Et là, c'est offert, c'est gratuit, donc vous pouvez aller voir la conférence. C'est un garçon qui est passionnant, qui vient de la Free Party, qui, à chaque fois qu'il vient faire une conférence, il a une vulgarisation qui est hyper simple, hyper agréable à écouter, et en plus, il a plein d'anecdotes qui, à chaque fois, il nous bluffe. On est censé rester une heure avec lui, on reste 2 heures à la fin. Et donc voilà. Donc, on essaie de donner la musique et les clés de lecture pour cette musique aussi à chaque fois. Et puis, on essaie aussi d'aller un petit peu au-delà des gens. Donc, il y a des surprises qui auront quand même lieu dans la programmation. Je fais un petit clin d'œil. Il y a des endroits de programmation qu'on ne peut pas encore diffuser, mais on sait qu'il y aura des petits spectacles qui auront lieu dans des endroits inusités qui ne sont pas encore annoncés, par exemple.
Vous avez parlé de musique sérielle. Mm-hmm. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Est-ce que vous pouvez expliquer?
En gros, la sérielle, c'est tout ce qui est lié à un mouvement qui est lié avec la technique de l'enregistrement, le field recording et ces questions-là. Et la musique sérielle, c'est aussi la musique qui est liée à un modèle de répétition de son. Donc Philippe Glass était quelque part dans la musique répétitive un auteur de musique sérielle. Après, je ne veux pas trop anticiper là, ce que pourra nous raconter Guillaume Kosmiki cette semaine à la Chapelle du Conservatoire, là, jeudi. Mais en fait, on touche à énormément de musiques qui vont même investir aussi la pop musique, par exemple. Aujourd'hui, quand on va écouter, je sais pas, Billie Eilish, il y a des éléments de musique sérielle dans Billie Eilish. Voilà, faut comprendre que la musique contemporaine, telle qu'on nous on veut la présenter, elle est présente en fait dans beaucoup, beaucoup de musique déjà.
Et est-ce que vous trouvez que la musique contemporaine est très présente à Rennes, hors festival, autre mesure? Est-ce que c'est un public propice ici?
Rennes est un public de musique. Déjà, grosso modo, on a comme un petit événement ici qui s'appelle les trans musicales, c'est ça? Qui a sculpté les oreilles, les miennes d'ailleurs, pour commencer, quand j'étais étudiant aussi ici à Rennes. Je dirais qu'il y a quand même, moi, ce que j'observe avec le festival Autre Mesure, une appétence pour les musiques de découverte. Et ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui est assez amusant avec le festival, c'est qu'on a un public très ouvert. Quand on dit des fois on a un public de 7 à 77 ans, moi je le dis vraiment, parce que c'est vraiment les gens qu'on a dans les salles. On a à la fois des jeunes enfants qui sont là avec leur famille, avec leurs parents, en mode poussette, et puis on va avoir des personnes âgées qui sont vraiment là tout le temps sur chacun des spectacles, avec leur chaise une demi-heure avant l'ouverture des portes. On a aussi beaucoup d'étudiants, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants dans notre ville, et puis des passionnés de musique que je vois dans d'autres concerts de rock, dans des concerts de musique XP, etc. Voilà.
Vous avez amené des musiques. Ouais. Si j'ai des petits extraits.
Des petits extraits, on va passer des extraits parce que c'est souvent des morceaux assez longs, donc ça fait 10-12 minutes et je pense qu'on n'en aura pas le temps. Mais au moins, ça vous donnera un peu des couleurs musicales dans vos oreilles.
Alors, par quoi est-ce qu'on commence ?
Et bah, bonne question, je ne sais pas ce qui a été prévu.
Bah, dites-nous.
Normalement, dans l'ordre des choses.
Un peu géré, en fonction des demandes.
Voilà, ça c'est les 8 sonneurs donc qui sont joués par notre ami Erwan Karavec.
C'est parti.
Bah oui, c'est un peu comme on revisitait un répertoire. Alors Philip Glass, qui est un compositeur américain très très connu, qui a fait beaucoup de bandes son de films, qui a été connu pour les Glassworks notamment et les pianos solo qui sont connus un peu de tout le monde en fait en vérité. Et là, c'est des vieilles pièces qui ont été revisitées par Erwan Karavec, donc un joueur un sonneur en fait, un joueur de bombarde d'un instrument traditionnel breton et celtique au sens large. Il avait déjà fait un projet l'année dernière pour 20 sonneurs, donc 20 personnes qui venaient vous sonner dans les oreilles. Là il n'y en aura que 8 cette fois-ci. C'est un répertoire qui sera joué donc au Blône, au l'auditorium du Blône le 18 janvier, donc en fin de semaine, c'est samedi.
Qu'a-t-on ensuite, Timothée ? J'adore qu'on entende ta voix.
Alors, la fois d'avant, on n'entendait pas ma voix puisque je vous parlais uniquement dans le casque.
Ah !
Mais là, je peux vous parler, effectivement. Alors, nous avons Rollin de Elders, de l'ensemble...
Ensemble Nisnat.
Nisnat. Je vous propose de l'écouter,
c'est
alors.
C'est parti. Ça fait danser Eva.
Oui, j'avoue tout.
C'est l'ensemble Nisnat qui a été monté par Will Guthrie, qui est un percussionniste et batteur australien qui vit à Nantes. Et c'est un projet que j'ai eu l'occasion d'inviter déjà sur un autre festival que je programmais autrefois. Et donc, il joue sur un gamelan. Le gamelan, c'est un instrument balinais de Java, qui est en fait un instrument traditionnel normalement pour des rituels. Et qui est assez impressionnant parce que c'est un instrument collaboratif qui se joue au sol. Là, par exemple, ça va être joué par 10 musiciens-musiciennes. Donc, ils vont pouvoir alterner sur l'instrument. Et donc, il a été un petit peu détourné, cet instrument, de son origine traditionnelle. Et il y a des compositions nouvelles qui ont été composées donc, par Will Guthrie et puis d'autres personnes comme Arnaud Allette. Et on s'installe donc pour une semaine quasiment à l'Antipode avec un concert et une résidence, mais aussi des ateliers. C'est-à-dire qu'on va proposer des ateliers de pratique. Et pour des gens qui sont issus de la musique, et pour des gens qui ne sont pas du tout issus de la musique. Donc si vous avez envie d'y aller, c'est sur le site de l'Antipode, vous avez toutes les informations pour vous inscrire à un atelier pour jouer du gamelan.
Super. Extrait suivant, monsieur le technicien.
Alors, nous avons un morceau nommé Social Distance.
C'est Joseph Dumoulin.
Voilà, tout à fait. Eh bien, je vous propose de l'écouter.
Thank you.
plus introspectif. Tout autre ambiance.
Ouais, plus introspectif. C'était Joseph Dumoulin, on l'a accueilli pour l'ouverture du festival avec Biljana Vujkova. C'est un joueur de Fender Rhodes. En fait, tout ce que vous entendez est fait sur Fender Rhodes, donc un vieil instrument des années 70, un clavier, et qui est augmenté de pédales d'effet. Et en fait, il en fait une musique très ambiante. Lui, c'est un roi de l'improvisation. C'est quelqu'un qui est très, très impressionnant en termes de pratique musicale. Et franchement, l'ouverture qu'on a eue pour le festival la vendredi dernier nous a donné raison sur cette invitation. On était très contents de l'avoir. Et le Fender Rhodes, finalement, qu'on va retrouver aussi, comme je l'avais dit tout à l'heure, dans l'instrumentarium de Felicia Atkinson mercredi. Et un petit fil conducteur, quoi.
Last but not least.
Eh bien, un morceau qui s'appelle Part 1, ou Partie 1, de Keith Jarrett.
Ouais, c'est difficile d'extraire un extrait de Keith Jarrett, masterpiece comme on dit. Keith Jarrett, un pianiste très 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 connu du milieu du jazz. Ce concert sera joué par Melaine Dalibert, qui participe au festival et aussi à sa programmation, qui est un pianiste émérite de notre ville de Rennes. Et une invitation qui a été faite par Mathieu Ritzler de l'Opéra de Rennes pour nous avoir 3 jours avec le festival cette année. Donc on est très heureux. Donc en fait, on fait 2 jours avec un opéra qui s'appelle Fort, qui aura lieu le 22 et le 23, que je vous encourage vivement à aller voir. Et le dernier soir, l'opéra, donc ce sera cette reprise 50 ans après, heure pour heure, jour pour jour, du 50 de l'album de Keith Jarrett.
Quand même, donc, un truc spécial pour l'anniversaire.
C'est ça, le Cologne Concert. En fait, c'est une pièce qui parle à énormément de gens. On se rend compte en parlant. D'ailleurs, il ne faut pas tarder à réserver parce qu'on a dépassé les 400 billets. Donc, ça veut dire qu'on va être complet bientôt. Et partout où ce programme est joué, il sera beaucoup joué cette année par d'autres pianistes. Et également, ça fait toujours un succès dingue. Mmh.
Super, mais merci beaucoup d'être venu
merci dans pour 6 votre heures invitation. Avant
minuit pour nous parler de ça. Donc le festival Autre Mesure, c'est jusqu'au 2 février.
6 heures avant minuit. 6 heures avant minuit.
Le lundi, c'est Chronique Fake News. Depuis le 7 janvier dernier, Los Angeles est ravagé par les feux. 24 personnes ont perdu la vie et plus de 40 000 acres sont partis en fumée depuis le début des incendies, selon le département des forêts et de la protection contre les incendies de l'État de Californie. Qui dit événement dramatique dit forcément fake news. Aglaé, tu nous en dis plus.
Il y a plusieurs fake news concernant les feux en Californie. Tout d'abord, avez-vous vu ces images du célèbre panneau Hollywood en feu? Elles tournent sur de nombreux réseaux sociaux comme TikTok depuis le début des incendies. Vous vous êtes peut-être fait et faites prendre au piège car les publications sont souvent très réalistes. Mais en vérité, elles sont entièrement factices. Premièrement, sur certaines d'entre elles, on peut voir, souvent écrit en tout petit et bien caché dans un coin, GROK, G-R-O-K. Il s'agit d'une intelligence artificielle créée par Elon Musk, créateur de X, entièrement Twitter, via sa société XIA. Elle permet de produire en quelques secondes des textes ou des images tout à fait aboutis. Sa particularité étant qu'elle est aussi intégrée à X, les internautes peuvent donc créer ce dont ils ont envie. Et parfois, ce dont certains et certaines ont envie, c'est d'argent. Les images ayant été visionnées dans de nombreux cas des millions de fois peuvent rapporter pas mal. En plus de ça, on peut prouver que ces images sont fausses. Et oui, en fait, on peut suivre en temps réel une carte mise en ligne par le département des forêts et de la protection contre les incendies de l'État de Californie, donc une carte recensant l'évolution des feux sur le territoire. Et l'on constate que les feux n'ont jamais atteint le panneau Hollywood. Cette théorie de l'incendie des lettres est en partie due au dysfonctionnement de la webcam qui d'ordinaire permet de les voir en temps réel. Ensuite, les pompiers ont eux aussi eu droit à leur lot de rumeurs. Sur certaines vidéos, on peut les voir sac à la main lançant de l'eau sur des feux. Des internautes ont donc interprété les choses à leur façon. affirmant que les pompiers utilisent des sacs à main faute d'avoir autre chose. C'est par exemple la position d'Alex Jones, conspirationniste et fondateur du site InfoWars, qui diffuse régulièrement des fake news.
Encore lui. Mais sinon.
Le 9 janvier, il tweetait « Trahison démocrate confirmée. Des fournitures du service d'incendie de Los Angeles ont été envoyées en Ukraine au cours des deux dernières années et ils sont obligés de combattre les flammes avec des sacs à main pour femmes en guise de sceau sous la direction de Gavin Newsom. » Le tweet a depuis fait 29 millions de vues. En réalité, les pompiers utilisent des sceaux en toile, bien plus léger et pratique qu'une lance à incendie pour éteindre des petits feux. Et il s'agit de matériel tout à fait agréé. La thèse du manque de matériel part donc en fumée.
Ouh.
Mais... Joli.
C'est le feu, cette réplique.
Mais elle s'inscrit dans un contexte, celui de la guerre en Ukraine, comme Alex Jones le mentionnait. En effet, plusieurs personnes, dont Donald Trump Jr., affirment que les pompiers de Los Angeles manquent de matériel car ils en auraient trop envoyé en Ukraine. Alors certes, des casques et des équipements de protection ont bien été donnés, mais cette donation date d'il y a 3 ans et rien ne peut amener à la conclusion qu'elle complique aujourd'hui le travail des secours. Enfin, Gavin Newsom, gouverneur de Californie évoqué par le fameux conspirationniste, est un des boucs émissaires de ce dramatique événement. Il a notamment été plusieurs fois accusé de mal gérer les ressources en eau par Donald Trump sans qu'il y ait de réelles preuves.
Merci Aglaé, heureusement que tu es là pour éteindre cet incendie de fake news. C'était nul.
Non, t'inquiète.
Il y a un répondeur... Il y a un répondeur sur notre message.
Parfait. Le téléphone.
Téléphone.
Allô? Allô?
Syllabe, la radio sauvage.
Bah, je trouve qu'on n'en entend plus parler de grand chose des putains de vaccins, là.
Alors que. Les vaccins.
11.
Il y en a eu.
Vaccins.
Voilà.
Dans nos gosses.
Dans nos corps.
Nos femmes.
On sait pas ce qu'ils mettent dedans.
On sait pas ce qu'ils foutent dedans. Jamais on sait ce qu'ils foutent dedans.
Mais j'ai ma petite idée.
Et là, voilà.
Quand même ma petite idée.
Voilà.
Ils nous le disent pas, mais qu'on sait faire des recherches, nous.
Voilà.
On n'est pas des délurés.
On n'est pas la moitié de débiles non plus, quoi.
Et puis.
Ça commence à bien faire. Tous ces vaccins. Voilà.
La technologie nanorobotique a eu une avancée spectaculaire en 2020.
Bref.
Voilà.
Serve de leçon.
Réfléchissez autrement. Think out of the box.
Nos Rennais ont du talent. Merci. Mm-hmm. Si vous voulez faire comme eux et nous expliquer vos théories, fumeuses ou pas. laissez-nous un message vocal, notre numéro, c'est le 02 30 96 25 35. Merci Timothée, on a entendu ta voix pour la première fois dans César en ligne, franchement.
Merci le goût.
Ça se note. Hein. Merci Timothée pour la technique, on vous dit à demain.
Et 6 heures exactement.
Avant minuit.
Qu'est-ce qui se passe?
Eh ben il est 6 heures.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue.
6 heures. Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs d'Europe.
6 heures avant minuit, 18h, 19h, sur Syllabe, la radio sauvage.